Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous lisons aujourd'hui la suite de la semaine dernière, tout un ensemble de paraboles qui ont attrait avec des graines, qui ont attrait avec la semence, le semeur, et qui produisent à 100 contre 1, ou alors qui tombent sur le mauvais champ, ou alors celle de la semaine dernière, où il y avait de l'ivraie qui poussait. Et le Seigneur continue, parce que ce qu'il a à nous dire n'est pas si évident. Il essaye de nous faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, eh bien, il ne nous est pas immédiatement évident. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore imparfaitement nourris de la connaissance de Dieu. Alors, entrons avec notre Seigneur pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est beau de dire des mots, c'est beau de dire des choses, et on a raison, mais une autre chose est de pénétrer à l'intérieur. Saint Ignace de Loyola dit dans ses exercices, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui satisfait l'âme, c'est de sentir et goûter les choses de l'intérieur. À force de regarder, c'est pour ça qu'on lit toujours les mêmes évangiles, vous voyez qu'on ne change pas, une fois qu'on a fini la Bible, on ne va pas aller chercher dans un autre livre, non. On essaye de pénétrer l'intelligence profonde. Alors je vous propose de voir d'abord, dans mon plan, une première partie, les caractéristiques du royaume de Dieu, telles qu'elles nous sont données ici, et dans un deuxième temps, la manifestation de ce royaume. Tout d'abord, caractéristiques du royaume de Dieu, il y en a deux, à mon avis, très simples, si on prend les deux petites paraboles, l'humilité et l'activité. Tout d'abord, l'humilité. Et oui, cette image de la graine de sénévé, alors c'est la graine de moutarde, la synapsis, une toute petite graine pour les cuisinières, ou ceux qui savent en tout cas ce que c'est qu'une graine de moutarde, qui l'ont déjà vue dans une cuisine, c'est tout petit petit, et quand d'ailleurs, quand on les fait tomber, c'est une catastrophe, parce qu'il y en a partout. Voilà. Donc c'est tout petit, ça ne se voit pas, et c'est vraiment la graine la plus minable dont vous puissiez disposer. Et c'est exprès. Le Seigneur choisit toujours un exemple frappant, du plus petit au plus grand, et il nous dit que cette graine, quand elle aura poussé, eh bien, ça sera un arbre. C'est une exagération littéraire. Hein. Quand même, le texte dit la plus grande des plantes potagères. Hein. Donc, parce que la graine de moutarde, c'est haut comme ça. L'arbre de moutarde, si vous voulez. Mais c'est pas grave. Hein. C'est la comparaison qui est intéressante ici. C'est l'humilité. Alors, cette humilité, dans le royaume des cieux, il nous faut la pratiquer. Attention, hein. Pas la fausse humilité. Pas celle qui consiste à dire « Oh, ben, je suis tout petit, alors je ne vais rien dire, je ne vais rien faire, je ne vais rien... » Voilà, ça, c'est pas de l'humilité, vous le savez, c'est de la lâcheté. Hein, c'est très simple. Voilà. Non, l'humilité consiste à exercer avec... ne pas exercer avec morgue ou orgueil ce qu'on a à faire, l'exercice qu'on a à pratiquer. Et peut-être que l'humilité, en pratique, peut se constituer dans l'écoute. L'écoute de ce monde. Nous avons besoin aussi d'écouter. Vous ne pouvez pas immédiatement arriver en disant aux gens « Bon, très bien, asseyez-vous, je vais vous parler du royaume des cieux. » Vous allez me dire « C'est ce que je suis en train de faire. » Oui, mais vous avez déjà la foi. Vous avez décidé de venir ici. Et c'est volontairement que vous vous asseyez pour dire « Parlez-nous du royaume des cieux. » Vous voyez, quand vous rencontrez dans le monde les gens, vous ne pouvez pas leur dire ça comme ça. Il faut... Voilà, où est-ce qu'ils en sont, quels sont leurs problèmes, leurs attentes. Et alors, gentiment, les inviter, mais moi je vais te parler du royaume des cieux. C'est ça l'humilité, hein. Se mettre à l'écoute, c'est pour ça que les petits hein, sont humbles, et c'est parce qu'ils sont tout en dessous, ils sont tout en bas, ils écoutent ce qu'on leur dit. Un peu. Hein. Mais ils écoutent, mais ils sont pas pleutres, hein. Vous savez qu'un enfant à qui vous expliquez très simplement qu'il faut pas passer au rouge parce que. C'est pas bien, hein, alors il faut attendre le petit bonhomme vert. Et vous savez très bien qu'un enfant de 5 ans, immédiatement, le jour d'après, va mettre en application ce que vous lui avez raconté, et que ce soit le président de la République ou vous-même, il va vous dire oh, « bah, passe pas au rouge !» Parce que c'est dangereux. Eh bien, c'est cette humilité-là, vous voyez. C'est pas l'humilité de ceux qui essayent de se cacher pour rien dire, c'est l'humilité de ceux qui écoutent et qui disent clairement la vérité. Ça, c'était la première image. Et la deuxième, hein, elle est donc humble, cette propagation du royaume de Dieu, il est humble, mais il est aussi, a priori, pas immédiatement visible. Et oui, c'est l'image de la levure. Alors, la levure, ça se voit quand même. Mais une fois qu'on l'a mise dans la pâte, elle ne se voit plus. Elle est enfouie. Alors, on ne va pas faire de l'histoire de l'Église, mais vous savez, dans l'histoire moderne de l'Église, on s'est saisi de cette image magnifique de l'enfouissement pour disparaître. Ah, il faut disparaître, c'est marqué dans l'Évangile. Alors, de grâce, ne portons pas de croix. De grâce, n'érigeons pas de croix. De grâce, quand on construit des églises, mettons-le dans un sous-sol. Surtout qu'on ne le voit pas. On sera vraiment humble comme dans l'Évangile. Voilà. Il ne faudrait pas confondre s'enfouir dans la pâte et retirer la levure de la pâte. Oui, nous sommes dans ce monde. Alors, nous ne sommes pas dans ce monde. J'imagine que quand vous allez à votre travail ou voir vos amis en vacances, vous n'y allez pas avec un étendard de procession marqué Notre-Dame des Armées arrive. Et voilà. Bon, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que nous rentrions. Nous rentrions dans nos cercles d'amis. Nous rentrions dans nos cercles même de famille, parfois. Dans notre travail. Il faut que nous y allions avec naturel. Et c'est de là que nous allons rayonner. Parce que la levure, elle est mise au milieu. Donc, il faut peut-être pas y aller avec un étendard de 2 mètres de haut, mais il faut pas retirer le royaume de Dieu de l'intérieur du monde. Pourquoi ? Parce que le monde gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Et donc, nous avons besoin de l'amener. C'est le deuxième point de cette première partie. Si le royaume de Dieu est humble et relativement discret, il est actif. Vous avez peut-être remarqué que dans les deux images, il y a quelque chose de très actif. D'abord, c'est Saint-Hilaire de Poitiers qui remarque que la graine de Sénévé, elle est piquante. Et que, c'est la moutarde, et que plus on la broie, et plus elle est forte. Et donc, n'ayons pas peur que la phrase, que ce que nous avons à apporter au monde, la révélation, ça pique. C'est comme du sel, ça brûle. Je le dis souvent quand je baptise, le sel que l'on donne aux enfants, c'est parce que notre parole, c'est pas toujours un bonbon à la crème, bien sucré, mignon, rond, etc. Ce qu'on a à dire, parfois, est désagréable. Ça pique. C'est comme l'alcool. Non, ça pique plus, l'alcool. Bon, il faut que je prenne une autre image. Quand j'étais petit, ça piquait, l'alcool. Quand on se faisait mal, on mettait de l'alcool, et ça piquait. Eh bien, ça doit piquer. Elle est piquante, la parole de Dieu. Et elle est puissante. Parce que si elle est capable de faire lever la pâte complètement, c'est que cette petite levure est très puissante. Soyez-en persuadés. Parfois, j'ai peur que nous autres, les chrétiens, on n'en soit plus persuadés. Alors bon, oui. Alors on écoute les gens, parce qu'on est plein d'humanité, et je vous encourage à être plein d'humanité, c'est bien. Mais on évite de leur dire, « Mais le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur est notre salut. Il est mort, il est ressuscité pour nous. Il va te faire vivre éternellement. Ta chair va ressusciter. » Est-ce qu'on ose dire ça? Ce sont les paroles de l'Écriture. Ce sont les paroles de notre foi. Et parfois, j'ai peur que nous, on se dise, ouf, c'est puissant la parole de Dieu. Vous le constaterez à chaque fois que vous l'utiliserez. C'est bouleversant. Parfois, on tient de longs discours, je suis spécialiste, on tient de longs discours, on argumente, etc. Bon, j'aime beaucoup ça, et puis bon, mes élèves aussi. Bon. Et puis, au bout d'un moment, on tourne en rond. Alors, on dit une prière. On donne une lecture de l'Évangile. Et c'est ça qui convertit les gens. La parole de Dieu, elle est puissante. Et puis, enfin, elle est hétérogène au monde. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'air brillant, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'air complètement accordé au monde que nous ne sommes pas faits pour lui. Vous voyez, saint Augustin, quand il a découvert l'Évangile, il a toute la Bible même. Saint Augustin, c'est un homme brillant. C'est un rhéteur. Alors, c'est dire s'il était brillant, un avocat, pour tout dire. De l'époque. Donc il avait lu toutes les philosophies, c'était brillantissime. Alors il a lu la Bible, puis il a trouvé que c'était minable. Pardon pour eux, mais c'est ce qu'il a trouvé. Il a refermé en disant « ça n'a pas d'intérêt ». Mais c'est ce qu'il a converti. Il a découvert la profondeur, justement, que c'était pas un livre pour apprendre des trucs avec... que c'était la parole qui, vivante, nous fait surgir au royaume de Dieu. Et puis, nous sommes hétérogène au monde. Et oui, le monde ne peut pas nous comprendre au sens de Saint Jean, le mal ne peut pas nous recevoir. N'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur qu'on vous dise « Oh là là, mais ça, c'est pas dans le vent » ou alors « Aujourd'hui, ça marche plus ». Elle est éternelle, la parole de Dieu. N'ayez pas peur, elle a toujours été hétérogène au monde. Elle a toujours été hétérogène au monde parce que le monde a toujours été une compromission avec le mal. Et donc, ce n'est pas parce que c'est difficile, ce n'est pas, c'est Kierkegaard qui disait, hein, ce n'est pas notre chemin qui est difficile, c'est ce qui est difficile qui est notre chemin. C'est ça qui justement, va faire qu'on va réussir. Vous le savez tous, dans les entreprises humaines, c'est vrai. C'est parce que vous voulez monter un sommet, c'est difficile. Hein, les 100 premiers mètres, c'est toujours marrant. Et puis, de dénivelé, j'entends. Hein. Et puis après, c'est dur, c'est difficile. Mais quelle joie d'arriver au sommet. Et puis, cette image, vous pouvez la prendre pour tout travail de ce monde. C'est difficile. Ben oui, le labeur, c'est difficile. Mais c'est ça qui fait arriver au but. N'ayez pas peur. La proclamation du royaume de Dieu, pour petit qu'il soit, pour enfoui qu'il soit, eh bien, il est difficile, certes, il sera victorieux. Le règne de Dieu va se manifester. C'est mon deuxième point. Il sera plus court, c'est promis. Alors, cette manifestation, comment se fait-elle ? Elle se fait de deux moyens. Tout d'abord, elle se fait maintenant dans l'Église et elle se fera à la fin du monde. En fait, et ça c'est difficile à saisir pour nous qui sommes empêtrés dans le temps, mais c'est une bénédiction, hein, le temps nous est donné pour sauver notre âme, nous avons du mal à comprendre que le Seigneur a déjà tout fait, il nous a déjà sauvés, il nous a déjà agrégés à lui, et pourtant on est encore en train de le faire. Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, dit saint Paul. Mais que manque-t-il aux souffrances du Christ ? Rien. Si, moi. C'est moi qui manque aux souffrances du Christ. C'est la réalisation de ma vie qui manque encore au Christ. Parce que la réalisation de ma vie, elle m'est personnelle, elle m'est propre, elle m'est expérientielle, elle m'est dans ce monde. Je le dis de 10 manières différentes, mais c'est la même chose. Elle est en cours de réalisation. Alors, ce royaume de Dieu, évidemment, tous les pères de l'Église l'ont vu, hein, c'est l'Église. L'Église qui est la continuation du Christ. Bossuet le dit avec une phrase ciselée, limpide et magnifique. Vous pouvez la prendre par cœur, c'est facile. Jésus-Christ, c'est l'Église répandue et communiquée. Eh oui, il faut être Bossuet pour dire quelque chose d'aussi concis, beau, simple et profond. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. C'est-à-dire, c'est ce royaume de Dieu qui est en train de se manifester. Songez-y, mes frères, ils étaient une cinquantaine il y a 2000 ans. C'est-à-dire, rien du tout. Nous sommes des millions et des millions. Et nous sommes plus que des millions, d'ailleurs, parce que l'Église ne se résout pas à ceux qui, aujourd'hui, vivent. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont agrégés au corps du Christ, qui est l'Église. C'est-à-dire, ce sont les saints. Ce sont ceux qui sont au purgatoire, qui attendent de voir Dieu, mais qui déjà appartiennent à son corps. Et c'est nous. Nous, de manière temporaire et légère, autant que notre désir et notre action bonne nous attachent au Christ. Hein. Car lorsque vous péchez gravement, vous vous détachez de l'Église, au point que parfois l'Église est tenu de le constater, ça s'appelle l'excommunication. Le développement de l'Église est quelque chose d'extraordinaire. C'est cet arbre magnifique dont parle l'Évangile qui dépasse même. Il y a de la place dans l'Église pour tout le monde. Nous avons le désir d'y agréger tout le monde. Nous avons le désir que les Anglicans reviennent. C'est en cours. En tout cas, la High Church. Nous avons le désir que Saint-Pédis revienne. Nous avons le désir que d'aucuns qui sont protestants reviennent. Ne reviennent pas, évidemment, sans condition, c'est-à-dire sans s'agréger véritablement à la doctrine du Christ. Mais nous désirons ça d'un grand désir. Et puis, arrêtons de penser que l'Église est une société politique conventionnée. C'est-à-dire que dans l'Église, on fait comme ça. Dans l'Église, on ne fait jamais comme ça. Dans l'Église, on fait comme on veut. On fait comme on veut tant qu'on tient au credo. Tant qu'on tient à la foi de l'Église, tant qu'on tient à sa liturgie. Et après, à l'intérieur, c'est la liberté des enfants de Dieu. Une espèce d'obsession aujourd'hui de l'unité, de la théologie de la communion. Alors, il faut être en communion, tout le temps. communion. Bon, alors, j'entends des âneries. Oh, tu peux pas t'habiller comme ça parce que les autres ne sont pas habillés comme ça. Mais je m'en fous. Mais c'est pas grave. Hein? Ah, tu peux pas faire comme ça. Ah, mais je m'en fiche. C'est bon ou c'est pas bon? C'est permis ou c'est pas permis? Bon, alors si c'est pas interdit, si c'est pas mauvais, je fais ce que je veux. La liberté des enfants de Dieu, mes frères. Vivez-en à fond. L'unité n'est pas une espèce de lame qui va tous vous transformer dans des clones. Il n'y a rien de plus différent d'un franciscain que d'un bénédictin. Il n'y a rien de plus différent de tel père de famille que tel autre à vivre sa foi. Il n'y a rien, mais vous qui avez des enfants, vous le savez, je l'espère. Ce qui est saint, si vous avez plusieurs enfants, c'est qu'il n'y en ait pas deux qui se ressemblent. Deo gratias ! Le bien ne peut pas s'épuiser. Le bien, il est infini. Donc c'est normal que nos visages, nos manières de faire soient inépuisables. Eh bien ce bien-là, c'est celui qui va se manifester à la fin du monde. Ce royaume des cieux ne sera pas une espèce de rassemblement fasciste où tout le monde va se ressembler en ligne, où on aura tous la même casquette, tous la même tête, tous le même machin. J'aurais pu dire fasciste, communiste, hein, c'est la même chose. Il n'y a qu'à regarder les défilés. Hein. Non, ça ne ressemblera pas à ça. Ça ressemblera à l'ordre des cieux, comme Saint-Exupéry parle de l'ordre de l'arbre, hein, du cèdre, qui a des branches, qui a des oiseaux sur celui-là, qui a une branche cachée ici, qui a des racines en bas, qui a une grosse racine ici, une petite racine là. Voici l'ordre du Seigneur. L'infinité de sa manifestation n'aura pas fini de nous surprendre, c'est pour ça qu'on ne pourra pas s'ennuyer dans l'éternité, parce que ça sera éternellement à découvrir. Voilà cette magnifique manifestation, ce dévoilement qui nous est donné parce que le Seigneur nous a parlé en parabole, comme il le dit ici, c'est-à-dire qu'il nous a donné des images pour nous faire comprendre. Pour terminer, je veux faire fi d'un danger qu'il y a parfois dans la lecture de l'Écriture sainte et dans la transmission de la doctrine du Christ, c'est parce qu'il revient de nos jours. C'est un vieux danger qu'on croyait fini, qui s'appelle la gnose. En fait, ce n'est pas la gnose, parce que la gnose, c'est la connaissance, donc c'est bien. C'est la gnose au nom menteur, comme dit saint Irénée. C'est-à-dire une espèce de pseudo-connaissance de quelques personnes qui sont des sachants, qui auraient fait des études particulières. Alors, ils savent. Et ils vont nous expliquer. Il n'y a rien à nous expliquer. On a tout dans l'Écriture. Tout est dévoilé. Le Seigneur nous a parlé en images pour que ça soit plus clair. Le Seigneur nous a tout dit. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de tout. Nous savons tout ce qu'il faut pour nous sauver. Nous ne sommes pas des gnostiques, nous ne sommes pas non plus des gens qui pratiquent l'ésotérisme. Il n'y a rien de caché là-dessous qu'il faudrait découvrir, parce qu'évidemment, moi, je suis plus intelligent. Alors, hein, vous voyez, la gnose, c'est toujours le même mensonge. C'est une espèce de... Et puis, ça marche très bien, parce que ces gens disent, je vais vous expliquer à vous. Donc, vous êtes plus intelligent. Vous allez comprendre. Eh bien, non. Nous ne voulons pas mentir au monde. Notre seul message, c'est que Jésus-Christ s'est incarné, qu'il est Dieu, qu'il a vécu parmi nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que je suis sauvé. Ainsi soit-il.